J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46, versets 10 et 11. Ésaïe 46, versets 10 et 11. Donc c'est l'Éternel qui parle. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il y a cette expression en français, que l'on soit croyant ou pas, qu'on a toujours entendu, enfin, en tout cas moi j'ai grandi en entendant cette expression, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle ou telle chose? Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que d'un côté c'est un bon Dieu, mais en même temps les gens se plaignent. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc c'est un reproche qui est fait à quelqu'un de bon. Vous voyez le paradoxe? Mais en tant que chrétien, on peut être animé d'une même pensée, même si on ne va pas évidemment prononcer les mêmes mots, mais on peut s'interroger sur le pourquoi et le comment des choses. Pourquoi Dieu permet une chose? Pourquoi il ne la permet pas? Pourquoi quelqu'un va subir telle ou telle épreuve? Pourquoi quelqu'un d'autre ne la subira pas? Alors, en apparence, mais des fois, il n'y a pas qu'en apparence, de façon réelle, il y a des gens qui ont un cours de l'existence qui est beaucoup plus calme que d'autres. Pourquoi nous naissons dans un pays plutôt que dans un autre? Certains naissent tous les jours dans un pays en guerre, où il y a la famine, où il manque d'eau, il n'y a pas d'éducation, il y a des maladies particulières, il y a la pauvreté. Puis d'autres naissent dans des cliniques ou des hôpitaux avec un appareillage autour d'eux qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Pourquoi l'un et pourquoi l'autre? Dans ce verset, alors évidemment ce verset s'adresse d'abord à Israël, c'est-à-dire que Dieu promet à Israël des jugements, on voit ça dans le livre d'Ésaïe assez souvent, et puis en même temps il promet la rédemption. Mais dans les deux cas, il promet des choses, et elles arriveront. C'est ce qu'il est en train de dire là, il dit à Israël, ce que j'ai prévu, les desseins que j'ai arrêtés pour vous se réaliseront. Et il en est de même pour nous. Alors je dirais, il y a deux facettes dans les desseins de Dieu. Il y a les desseins de Dieu que l'on connaît, et donc il les annonce d'avance, tout comme il a annoncé à Israël certaines choses. S'ils obéissaient pas à la loi, par exemple, il risquait de leur arriver telle ou telle chose. S'ils obéissaient, au contraire, ils allaient être bénis. Il y avait des promesses sur ce qui allait se passer plusieurs siècles plus tard. Donc, il y a les desseins de Dieu que nous connaissons. Et nous, en tant que chrétiens, il y a des choses que l'on connaît. On sait ce qui va se passer si on désobéit à Dieu. Ou alors si au contraire, on lui obéit. Il y a des promesses qui sont faites concernant le monde à venir, mais aussi durant cette existence, nous sommes prévenus de certaines choses. Donc il y a des desseins de Dieu que nous connaissons, et des fois en pleine responsabilité, on désobéit à Dieu presque en bravant sa parole et en espérant que ce qu'il a prévu ne nous tombe pas dessus. Donc il y a ce côté avertissement et aussi promesse, encouragement. On connaît les desseins de Dieu dans certains domaines. Mais dans d'autres domaines, d'autres desseins de Dieu, il y a des desseins qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer quand je vais sortir de cet immeuble. On le sait, dans notre pays, il y a eu, je dirais, chaque décade, des vagues d'attentats initiées par des groupes différents. Moi, j'ai connu les premiers attentats à Paris par l'OLP dans les années 70, que ce soit rue du Rosier ou ailleurs. Dans les années 80, c'était le groupe Ibrahim Abdallah avec le Liban, que ça soit chez le magasin Tati, qui était à l'époque à Montparnasse, où il y a eu je ne sais pas combien de morts, et à d'autres endroits. Il y a eu les années 90 avec le fils algérien, et notamment les attentats du DERC à Palais-Royal, par exemple. Et puis après, nous avons eu d'autres attentats jusqu'à ces jours-ci, dans les années 2000. Et je me suis toujours interrogé, c'est que statistiquement, on sait par exemple que sur 10 millions de franciliens, vu le rythme des attentats en France, il y a très peu de chances qu'on soit touché personnellement, individuellement, par un attentat. C'est mathématique, il y a très peu de chances. Je ne connais pas le chiffre, mais il y a très peu de chances. Il n'y a pas un attentat tous les jours. En revanche, il y a quand même des gens qui sont morts ou qui sont handicapés à vie. L'expression que j'aime de moins en moins, il était là au mauvais endroit et au mauvais moment. En réalité, non, c'est les poseurs de bombes qui étaient au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est pas le passant. Mais toujours est-il que, et dans les années 90, j'ai un membre de ma famille, une cousine, qui était à la station Palais-Royal quand il y a eu la bombe qui a explosé, et elle était sur le quai d'en face. Et ce qui fait qu'elle n'a pas été atteinte directement dans son corps, mais à cause du souffle, il y a eu un tympan qui a été, ou les deux qui ont été très endommagés. Enfin, je sais qu'il y a eu des problèmes pendant plusieurs semaines. Et puis, il y a eu le choc psychologique, bien entendu. Et ce qui fait que ça change une vie. Ça change une vie. Il aurait suffi que, je ne sais pas, le bus précédent l'amène en retard à la station ou au contraire l'amène un peu plus en avance et elle passait au travers, il suffit d'un rien. Mais là, dans ce verset, Dieu nous dit quelque chose de précis. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Et ça, c'est un mystère incompréhensible, c'est-à-dire que, bon, on sait que Dieu peut tout, il est intelligent, mais on a du mal à figurer son intelligence ou à imaginer son omniscience. Vous imaginez que pour chacune de vos vies, Dieu est entièrement en contrôle. Il n'y a rien qui est en dehors de contrôle, et pourtant, il vous laisse le libre arbitre, et il laisse le libre arbitre à d'autres. Ce qui fait que je prends l'exemple d'un meurtrier ou quelqu'un qui veut l'être, qui veut commettre un attentat, Dieu peut empêcher de le faire comme il peut le permettre. Donc il peut vous protéger de quelque chose comme il peut ne pas vous protéger. Et en même temps, il vous laisse libre, vous, de faire telle ou telle chose. Et parfois, il va vous empêcher de faire telle ou telle chose. C'est quand même un mystère. Et quand on opère selon ce genre de balance, vous savez, en disant « mais qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, pourquoi lui, pourquoi moi ?» Quand on commence à regarder la vie comme ça, on s'en sort pas parce que on essaye d'établir une justice qui, évidemment, ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas d'égalité là. Il n'y a pas de logique. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main, qui donnent leur vie aux autres et puis qui vont mourir à 30 ans. Prenons le livre des Actes, pourquoi Étienne est mort lapidé alors que l'Église commence à peine? Et d'ailleurs, mettons-nous à la place des croyants à l'époque, alors qu'il y avait des gens qui donc lapidaient Étienne, et il y avait Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, qui était présent, et qui, il est écrit, qui respirait le meurtre. Pourquoi Dieu ne tue pas un Saul de Tarse plutôt qu'Étienne? À ce moment-là, on aurait pu se poser la question. Mais après, on comprend. Beaucoup pensent que ce qui s'est passé ce jour-là, lors de la lapidation d'Étienne, a immanquablement eu un impact dans la vie de Saul de Tarse, le futur apôtre. Mais ça restait un mystère à l'époque. Et puis il y a plein d'autres événements dont on n'a même pas l'explication encore aujourd'hui. Et comment Dieu gère la vie de 7 milliards d'habitants, ou 8 bientôt, qui eux-mêmes sont libres de marcher ou pas avec Dieu. C'est quand même incroyable. Avec toutes ces connexions, ces interactions. Mais pourtant, Dieu reste souverain. Il n'est pas limité par les probabilités, le nombre de connexions possibles, le nombre d'hypothèses. Et c'est dans cette dimension-là qu'il faut rentrer parfois, concernant notre vie. C'est pas essayer d'avoir des mauvaises questions, mais c'est de se poser les bonnes questions. Parce que les mauvaises questions n'apporteront pas forcément la paix si on avait les réponses, Mais surtout, c'est qu'on n'aura jamais les réponses. Nous ne sommes pas Dieu, on ne peut pas tout comprendre. On peut commencer avec Genèse 3, pourquoi Dieu a laissé rentrer le serpent dans le jardin. Enfin, voilà, ça commence là. Et nous devons comprendre que Dieu, dans l'éternité passée, a pensé à chaque personne qui a existé, qui existe et qui existera. Il a pensé à vous. On peut se dire, mais est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que Dieu vraiment m'aime? Est-ce que Dieu vraiment pense à moi? Mes amis, il faut enlever de votre tête ce mensonge ou ces fausses questions. Dieu permet toutes choses. On a écouté le témoignage de notre frère tout à l'heure, et de son épouse. On n'a pas toutes les réponses. Pourquoi il a permis telle ou telle situation? Et en réalité, on n'a même pas à se poser la question. C'est arrivé. C'est Dieu qui a envoyé une épreuve dans un premier temps, et c'est Dieu qui a envoyé une bénédiction dans un deuxième temps. Comme il l'a dit tout à l'heure, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et donc, Dieu connaît chaque situation de notre existence, il connaît chaque détail de notre vie. Et il sait aussi, alors que parfois il a pourvu, ou il pourvoit dans certaines situations, il sait aussi que parfois on ne voit pas la provision de Dieu, et qu'on va se comporter ou vivre comme s'il n'avait rien fait, parce qu'on n'a pas vu sa provision. Vous voyez un peu jusqu'où ça va? Il sait tout. Et j'aime ce passage dans Matthieu 10, qui est un verset qui a l'air de s'adresser aux enfants, mais pourtant, quand on y réfléchit, c'est encourageant, c'est bien de se le répéter. C'est en Matthieu 10, versets 29 et 30, Jésus qui parle, et il dit « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » C'est quand même incroyable. Là, on est voilà quelques dizaines dans cette salle. Dieu connaît le nombre de cheveux que chaque personne a sur la tête. Alors, on sait que c'est Dieu qui peut le savoir. Mais lorsque Jésus parle là, il montre de l'intérêt, ça l'intéresse. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous lui posez des questions, vous vous intéressez à lui pour des fois des choses insignifiantes. Alors que chez d'autres, c'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un a fait les courses, bon, c'est bien. Puis une autre personne dira, j'ai fait les courses, ah bon, qu'est-ce que t'as acheté? Alors qu'en réalité, c'est pas très important, mais il y a un intérêt pour la personne. Et Dieu s'intéresse à tout s'agissant de nous. Même du nombre de nos cheveux. Il prend soin de tout, il connaît toutes choses, il sait tout. Il est concerné dans tous les domaines. Mais il n'empêche, à part s'il y a l'enlèvement, qu'on mourra tous. Et est-ce que ça signifierait que Dieu ne s'intéresse pas à nous parce que nous allons mourir? Non, nous savons que ce n'est pas l'équation correcte, ce n'est pas ce qu'il faut penser. Parce que Dieu a décidé par ailleurs que si l'homme désobéissait, le péché ou la mort entrerait dans le monde. Donc on est assujetti à ce décret de Dieu. Mais ce n'est pas parce que ce décret est opérationnel encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le mal n'est pas encore parti, la mort n'est pas encore partie, la maladie n'est pas encore partie, le désespoir n'est pas encore parti, les ténèbres ne sont pas parties, le diable n'est pas dans le lac de feu. Ce n'est pas parce que tout cela existe encore et que Dieu n'a pas tout arrêté, que Dieu est indifférent à ce qui nous arrive. Ce sont deux choses différentes. Et souvent, nous, on a tendance, alors on a notre théologie, oui, Dieu peut tout, Dieu est avec nous, Dieu m'aime, et puis après, quand on est dans une situation difficile, on lui en veut. Ça n'a pas tellement de sens. Vous savez, un pasteur a dit une fois dans une prédication une phrase qui m'avait touché. En plus, c'est des fois, il y a des phrases qui donnent du relief à une vérité. Il avait dit, Jésus nous a pas promis une vie facile, il nous a promis un joug plus facile. Dieu nous a pas promis une vie facile, il nous a promis un joug plus facile. Mais il y a encore un joug. Il y a encore, une obéissance à accepter, une soumission à la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un joug. Je rappelle, juste pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, qu'un joug, pas toujours, mais très souvent, c'est un joug qui permet d'associer deux personnes ou deux animaux. Et lorsque deux animaux labourent et qui sont sous un joug, il y en a un qui a une tête d'avance. C'est l'animal qui est le chef, en fait. Ce qui fait que le conducteur de la charrue, en fait, donne des ordres à un seul animal, pas à deux. Et l'animal qui est en tête entraîne le second. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Jésus-Christ est devant nous. Il n'est pas loin, juste devant. Et nous avons pris son joug. Et quand vous avez un animal qui est en tête du joug, mais qui est faible, le deuxième est complètement paumé et désespéré, ça marche plus. Il faut que le premier soit plus fort. Et c'est ce qui se passe avec Dieu, c'est-à-dire que nous prenons le joug de Dieu, ce qui nous permet, nous, de vivre selon nos propres capacités, parce que nous sommes qu'humains, nous ne sommes pas Dieu. S'il n'y a pas le joug de Dieu, on devient, nous, le maître, soi-disant, de notre destin. Et du coup, on avance là où on veut. Mais en réalité, nous sommes égarés et le joug est lourd, très lourd. Les difficultés demeurent en plus, elles sont là. Des fois, on croit se sortir de difficultés, mais en réalité, c'est un leurre. Et donc, il faut accepter la vie telle qu'elle est, mais de prendre le joug de Dieu, qui lui est plus aisé. Je pensais tout à l'heure, pendant qu'on louait Dieu, et c'est une pensée qui revient de temps en temps dans ma vie, c'est que, en tant que chrétien, on peut parfois se sentir seul, abandonné, pas aimé, oublié, désemparé, on peut se sentir coupable, donc seul, parce que quand on est coupable, souvent on se sent seul, parce qu'il y a un manque de communion avec les autres ou avec Dieu. Mais derrière tout ça, il y a quand même une vérité qui demeure, c'est que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Même si on n'est pas en paix avec Dieu. Et je sais que quand je me suis converti, c'était il y avait plusieurs choses qui, pour moi, marquaient une différence avec la vie d'avant. Mais notamment, c'était cette certitude et donc cette paix que j'étais plus seul. C'est comme si entre moi et le néant, les doutes, les incertitudes, il y avait Dieu maintenant. Je baignais dans la présence de Dieu, si vous voulez. Ce qui fait que j'avais pas plus de réponses qu'avant. J'avais peut-être pas plus de certitudes, en plus je connaissais même pas la Bible à cette époque-là. Mais c'est ça y est, je sais. Il y a comme une plénitude là qui se manifeste. Et cette plénitude, mes amis, nous l'avons tous, mais nous oublions parfois qu'on a vécu sans. C'est-à-dire que cette présence de Dieu nous est tellement familière qu'on se croit seul, un peu comme, vous savez, vous discutez avec une veuve ou un célibataire ou une célibataire, et vous avez l'homme marié qui dit « Ah, je suis marié, mais je me suis jamais senti aussi seul. » Et l'autre en face lui regarde en disant « Moi, la solitude, je connais. Toi, t'es quand même, vous êtes deux sous un toit. » Eh ben, c'est un peu la même chose, c'est que parfois nous on est aigris, on se sent seul, on va pas bien, mais en réalité on n'est pas seul. Il y a Dieu. Nous sommes des privilégiés, mes amis. On a des réponses. Il y a une vie. Il y a des gens là dans la rue qui sont en train de passer devant cet immeuble, ils sont seuls, vraiment. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils sont seuls. Ils s'accrochent peut-être à quelques certitudes, mais ils ne savent rien de la vie, ils ne savent rien, ils ne savent pas où ils vont. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Nous avons une réponse. Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais on a la réponse. Et Dieu fait ce qu'il veut en attendant. Ayons l'humilité d'accepter ça, cette souveraineté de Dieu. Il peut appeler un oiseau, comme il est dit dans le passage d'Ésaïe, du fin fond de la terre et l'amener à un endroit, et il va prendre telle proie. Pourquoi telle proie? Pourquoi ce vautour va prendre tel lapin? Il y en a des centaines dans la forêt, et à un moment donné, t'as un épervier qui prend ce lapin. C'est son jour. En tout cas, c'est pas son jour. C'est un mystère. Dieu fait ce qu'il veut. Et donc, Dieu a mis en place l'existence de chacun. Et nous, souvent, on est anxieux, déçus, tristes, parce que on ne comprend pas son dessein. On ne sait pas où il veut en venir. Mais en réalité, il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est vrai, mais il y a des choses que nous savons. Et une des clés, et qui n'est pas liée à la connaissance forcément, c'est l'amour. Si je sais que je suis aimé de Dieu, si j'y crois vraiment, est-ce que je crois que Dieu m'aime? Je comprends pas tout, mais je lui fais confiance. Vous savez, la foi, c'est pas, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous connaissez ce verset dans Romains. Mais, ce que l'on entend, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend de Dieu? Est-ce qu'on entend un jugement? Est-ce qu'on entend des reproches? Ou est-ce qu'on entend l'amour de Dieu à notre endroit? C'est-à-dire que quand l'amour prévaut, la connaissance peut attendre. Un enfant ne comprend pas tout, mais s'il sait que ses parents l'aiment, il y a une part de confiance qui peut entrer en ligne de compte. Et je dirais, c'est pareil avec tous les dirigeants ou ceux qui sont en responsabilité. Et là, je ne parle pas d'un amour agapé ou un amour héros ou un amour filéo. Je parle de, je ne sais pas quel amour comment je peux le qualifier, mais prenons un chef d'État. J'ose espérer que notre président aime son peuple. Jusqu'à quel point, j'en sais rien, mais est-ce que je crois qu'il veut du mal à son peuple? Si je crois cela, c'est évident, je manifeste tous les jours dans la rue. C'est parce que je ne sais pas toutes les données, tous les tenants et aboutissants de telle ou telle décision. Je ne suis pas président, je n'ai pas toutes les infos et je n'ai pas toutes les capacités. Donc il y a une part de foi dans l'autorité. Et la part de foi, c'est pas uniquement parce que je suis de gauche, il est de gauche, donc tout va bien. Ça va au-delà. Même si c'est un président qui ne correspond pas à mes opinions, mais j'espère qu'il aime son peuple. Parce que si j'ai en face de moi, ou si nous avons en face de nous, quelqu'un qui n'est que égoïste, qui se sert du pouvoir comme pour se servir lui, on sait ce que ça peut donner. Alors évidemment, il y a toujours une échelle, on peut toujours dire qu'il y a un dirigeant qui aime mieux son peuple qu'un autre. Mais on sait très bien, aujourd'hui, je ne parle même pas d'histoire passée, mais aujourd'hui, nous voyons sur la terre des dirigeants qui n'aiment pas leur peuple et on voit le résultat. On le voit. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités, pour que nous puissions vivre en paix. Mais pour qu'on puisse vivre en paix, il faut que des dirigeants proposent la paix à la population. Et donc, je peux moi avoir confiance, non pas parce que je pense qu'il est le meilleur, qu'il surpasserait tous les autres, c'est pas un concours, mais il est là, le président, et je prie pour qu'il fasse du bien au peuple qui est le nôtre. Vous comprenez le schéma? C'est-à-dire que la confiance est liée à l'amour, pas que uniquement aux capacités. Parce que quand j'utilise que les capacités, ou je pense qu'en fonction de l'intelligence, si moi je suis plus intelligent ou je crois l'être, je vais du coup rejeter toute autorité, ne pas avoir confiance. Je prends un exemple, il peut y avoir des parents moins intelligents que leurs enfants, en termes de capacité intellectuelle. Oui, mais les parents aiment leurs enfants. Et il peut y avoir des parents qui sont très, très simples au niveau de leur éducation et qui sont les meilleurs parents qui soient parce qu'il y a de l'amour. Et ils cherchent le meilleur pour leur enfant. Ils feront des erreurs, mais ils chercheront le meilleur. Mais s'agissant de Dieu, là pour le coup, on n'a même pas à se poser la question sur les faiblesses de Dieu ou ses capacités. Il est Dieu. Et vous imaginez que Dieu, celui qui se trompe jamais, qui a toute puissance en lui, il est Dieu, voilà, on va faire court, hein, il est Dieu, en plus nous aime.
Eh,
on n'est pas béni? Parce que des fois, il y a des gens qui nous aiment, qui veulent nous aider, mais on se dit, on ne va pas faire grand-chose pour nous. Et puis l'autre, qui a toutes les capacités, mais il ne nous aime pas. Donc du coup, ça ne sert à rien non plus. Mais nous avons réuni en Dieu tout ce qu'on peut espérer. Qui peut nous délivrer de la mort? Personne en dehors de Dieu. Eh bien, ce Dieu va nous délivrer de la mort parce qu'il nous aime. Et il a envoyé son Fils pour cela. C'est pour ça que j'aime bien la pensée de Paul lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 13, 12, « Aujourd'hui, on voit au moyen d'un miroir. » Tu vois, on ne voit pas bien. Alors, il faut le lire dans le contexte de l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, les miroirs sont des fois plus jolis que nous-mêmes. Les miroirs sont tellement beaux. À l'époque, c'était des plaques de mica, c'était martelé, c'était pas très... Ça fait que quand vous vous regardez dans un miroir, c'était un peu... Je ne sais pas à quoi ça servait trop, d'ailleurs, mais en tout cas, l'image était pas très reluisante, je dirais. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire ce passage. Paul dit, là, on voit au moins, comme dans un miroir. Là, aujourd'hui, je sais pas comment on pourrait traduire ça, comme dans une flaque d'eau, par exemple, vous voyez. C'est-à-dire, c'est pas terrible encore. Donc, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Et vous savez, moi, alors, on fait un pari parce que là, je suis sûr de gagner. Mais quand on verra face à face, est-ce qu'on va le faire « waouh » ou est-ce qu'on va faire « bof » ? Est-ce que vous croyez qu'on sera déçu ? Est-ce que vous croyez que quand on va comprendre pourquoi Dieu a permis telle ou telle chose, pourquoi il a fait telle ou telle chose dans notre vie, on va dire « t'aurais pu faire autrement, moi j'ai une meilleure idée là ». Et puis il y a Dieu qui dit « ah mince, oui j'y avais pas pensé, dis donc, prends ma place ». Non, on va faire « pardon Seigneur d'avoir pensé ce que j'ai pensé. » Ben moi, j'ai une proposition à nous faire. Dès aujourd'hui, faisons-lui confiance. Comme si on voyait déjà. On voit par la foi, au moyen d'un miroir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il a un dessein qui est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. C'est son dessein. Ce qui fait que je ne comprends pas tous les coups de crayon, tous les coups de burin, tout ce qu'il fait lorsqu'il me sculpte, mais je sais qu'il a comme objectif de me rendre semblable à l'image de son Fils. Et un jour je verrai face à face. Tel que qu'il est, moi-même je serai. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Joseph avec ses bénédictions et ses détresses, ses trahisons. Et j'en ai déjà tellement parlé dans cette église que je ne vais pas revenir là-dessus, mais on sait très bien que Dieu avait un dessein au travers de la vie de Joseph et que ce dessein s'est accompli. Mais qu'on le sait à la fin. Mais lui, pendant des dizaines d'années, il a vécu sans connaître la fin de l'histoire. Il avait qu'une promesse, un rêve. Et en Genèse 50, alors que ses frères qui l'ont trahi, l'ont vendu comme esclave, ont peur qu'il lui tombe dessus. Et regardez ce que dit Joseph, l'objectivité divine dans la bouche d'un homme qui a compris le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu. Joseph savait que l'objectif de Dieu, c'était pas que Joseph soit heureux, c'était pas que Joseph soit riche, c'était pas que Joseph n'ait pas une égratignure, c'était pas que Joseph ait une vie paisible, c'était que Joseph soit l'agent, l'outil de Dieu pour accomplir son dessein pour la création de la nation d'Israël. Et donc il est dit là au verset, en Genèse 50, versets 20 et 21, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » On revient à Romains 8. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que Joseph a réalisé que tout ce qu'il a traversé, les cachots, les trahisons, les mensonges, l'abnégation, bref, tout ce qu'il a vécu, la peur de la mort, tout ce qui est arrivé, c'était pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et lisez ça. « Et il les consola en parlant à leur cœur. » Vous savez, on a besoin d'être consolé. Mais Dieu ne va pas forcément nous parler en nous expliquant tous les tenants et les aboutissants. Il veut parler à notre cœur. Il nous aime d'un amour éternel. Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Ça, c'était le dessein de Dieu aujourd'hui. Je veux dire, c'est par une communion avec Dieu, avec le cœur de Dieu, dans notre cœur, que nous avons la paix avec Dieu. Ce ne sera pas pour des explications permanentes. On n'aura pas. Vous savez, on est comme. Et pourquoi ? Et comment ? Et pourquoi si ? Il y a une phase où les enfants posent des questions comme ça sans arrêt. Mais nous, des fois, on est des grands enfants devant Dieu. Et les anges regardent en disant, quand même, ils ont du tout père. Parce que nous, on est, et pourquoi Dieu, et pourquoi t'as permis ça? Les enfants râleurs. Et en même temps, on souffre. C'est vrai, on souffre. Mais on peut être consolé. Parce que Dieu, comme Joseph l'avait avec ses frères, Jésus est passé par toutes les épreuves de l'existence. Et le mal qu'ont voulu faire les hommes contre Jésus s'est transformé en bien, puisque par sa mort, il y a eu la résurrection. Aujourd'hui, notre Joseph à nous, Jésus, veut nous parler à notre cœur, il veut nous consoler. En disant, ben voilà, ce qui est arrivé, ben, tout concourt au bien. Et ce qui fait qu'il peut même leur dire, tout ce que vous avez fait contre moi concourt au bien. Et c'est le message qu'on doit avoir auprès des gens. Parfois, on n'a pas toutes les réponses en tant que chrétien. Mais parlons au cœur des gens. C'est de cela dont ils ont besoin. Mais pour ça, il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut expérimenter une communion avec lui qui fait qu'on porte le cœur de Dieu et on le propose aux autres. Ça n'empêche pas qu'on puisse étudier l'apologétique, étudier la Bible, avoir des réponses aux questions qu'on nous pose. Mais la connaissance suffira pas. La vie, elle passe par le cœur. Vous savez, si moi je vous donne un verre de sucre à avaler, vous n'allez pas aimer. Si je vous donne 5 jaunes d'œufs à avaler, vous n'allez pas aimer. Si je vous donne tel ou tel édulcorant à avaler, vous n'allez pas aimer. Si je vous donne un verre de farine à avaler, vous n'allez pas aimer. Mais tous ces ingrédients, ça peut faire un biscuit. Et ça, vous allez aimer. Et dans notre vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que parfois, on vit des situations qu'on n'aime pas. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose avec notre vie. Il y a une finalité. Comme on a entendu tout à l'heure dans ton intro, le pain de vie. Peut-être qu'en permettant certaines choses dans notre vie, on devient le pain pour les autres. Ou on découvre le pain de vie en nous. Joseph a procuré du pain à ses frères. Tout ce qui lui était arrivé, en bien ou en mal, lui a permis de sauver un peuple nombreux et de le sauver de la famine. Et entre parenthèses, la grâce s'est pas arrêtée à la famille, la grâce s'est répandue à tout le royaume d'Égypte. C'est que par Joseph, Dieu a pourvu à du pain, enfin c'était de la farine, du blé, à la nation la plus puissante de l'époque, l'Égypte, par un homme qui a eu un rêve de la part de Dieu en disant stocker, parce que pendant 7 ans il y aura des récoltes abondantes, mais après il y aura 7 ans de famine. Et non seulement sa famille a été sauvée, mais tout Égypte a été sauvé. Mais si vous prenez le mensonge de la femme de Potiphar, c'est pas agréable à vivre. Si on prend la trahison de ses frères qui l'ont mis dans un puits prêt à le tuer, il a dû avoir peur là à ce moment-là. Ou finalement il a la vie sauve mais il est vendu comme esclave. Si vous prenez la période dans le cachot où il explique les rêves et finalement le gars on l'oublie et il reste plus longtemps encore dans le cachot. Si on prend ces événements un par un, aucun n'est agréable. Mais à la fin, la vie de Joseph est super. La vie de Joseph est super. Parce qu'elle a accompli le dessein de Dieu. Et nous, il nous est demandé, jour après jour, d'avoir la sagesse de Dieu pour entrer dans le dessein de Dieu. Avec notre libre arbitre. Parfois, il faudra, avec l'aide de Dieu, prendre des décisions, aller dans un sens ou dans un autre, mais jamais pour se protéger. Jamais pour vivre dans, au profit de notre ego, mais pour dire, Seigneur, tu es le pain de vie, aide-moi à être le pain de vie pour les autres. Que Dieu vous bénisse.